Ce soir, je vous propose de passer une soirée d'un genre particulier dans l'intimité d'un maître qui était alors encore jeune et en pleine renaissance.
How many roads must a man walk up before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many years must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Le public du Boston Music Hall en Nouvelle-Angleterre, un soir d'automne 1975. Une salle à la contenance modeste, quelques 3500 places, où l'on est venu écouter celui qui est déjà une légende vivante, Bob Dylan. On vient de l'entendre chanter Blowin' in the Wind, le poème qui a cristallisé en 1963 tout un mouvement contestataire aux États-Unis opposé à la ségrégation raciale comme à la course aux armements. Blowin' in the Wind, qui a intronisé Bob Dylan presque du jour au lendemain comme une sorte de ménestrel officiel de ce qu'on appelait le protest song. En France, on disait la chanson engagée, c'était pareil. Vous l'avez entendu, Dylan chantait, d'ailleurs comme à ses débuts, en duo avec Joan Baez, celle-là même qui, célèbre avant lui, avait lancé sa carrière et dont il avait aussi partagé la vie. Mais entre 1963 et 1975, il n'y a pas que 12 années qui se sont écoulées, on a changé de monde. Et Dylan a, quant à lui, déjà vécu, à l'âge de 34 ans, plusieurs vies. Quoi de commun, en effet, entre le début des années 60, où une certaine jeunesse était encore pleine d'espoir et d'idéalisme, sûre qu'elle allait changer un monde détestable, et ce milieu des années 70, où la désillusion et une sorte de fatigue collective ont envahi les esprits. Aux États-Unis, c'est la seconde présidence Nixon, marquée par le scandale du Watergate, qui a vu ce chef d'État mentir sous serment quant à sa prétendue méconnaissance des écoutes téléphoniques qu'il avait ordonnées et qui a été acculé à la démission, remplacé par le vice-président Gerald Ford. Et puis, c'est la défaite au Vietnam, dont l'armée américaine s'est retirée en lâchant le sud du pays, envahi par les troupes du Nord, les Viet Cong armés et entraînés par l'Union soviétique. Les États-Unis se préparent à célébrer le bicentenaire de leur indépendance, 1776-1976, dans une ambiance globalement apathique. On a alors d'autres préoccupations. Le prix de l'essence qui augmente, le chômage qui a presque doublé en 10 ans, la nature dévastée, la conscience écologique en plein essor. Quant à Bob Dylan, il semble la survivance d'un monde qui s'efface. Il a d'ailleurs de la chance d'être encore en vie. Il a échappé à un grave accident de moto en 1966, il s'est retiré à la campagne dans la région de Woodstock avec femme et enfants. Et il a enregistré entre 68 et 70 des albums à dominante country dont on reconnaît les beautés, mais qui ne suscitent plus la vénération inconditionnelle de sa grande époque, celle du milieu des années 60. Beaucoup considéraient alors Bob Dylan comme une sorte d'oracle de la jeunesse anticonformiste. Chacune de ses paroles, interviews, écrits, actes faisait l'objet d'exégèses passionnées chez ses admirateurs qui étaient légion. Mais depuis, Dylan n'a plus rien fait, ou presque. Entre 70 et 74, il n'a publié aucun album. Il n'a entrepris aucune tournée depuis 66. Il y a bien eu quelques apparitions ça et là, quelques chansons nouvelles. Très peu, il a pratiquement disparu. Alors oui, il est une légende vivante, mais enfin 33-34 ans, c'est un peu jeune pour vivre sur ses acquis. Alors en 74, Dylan met les bouchées doubles. D'abord, au début de l'année, il revient dans Planet Wave. C'est un album enregistré en compagnie de ses accompagnateurs historiques, The Band, et il semble revivifié. Il est parti en tournée aux États-Unis avec eux. Bob Dylan et The Band, à égalité sur l'affiche, remplissent sans peine des stades très vite, en hiver. Un double album live, Before the Flood, est publié dans la foulée. Et enfin, à la fin de l'année, surprise, environ 6 mois après Planet Waves, il publie un enregistrement très personnel, Blood on the Tracks, du sang sur les sillons. Il y présente des chansons où il s'ouvre de ses blessures. Tout le monde s'accorde à dire que Bob Dylan réalisait là un chef-d'œuvre. Mais rien, absolument rien, ne laisse présager la complète réinvention de lui-même par laquelle il va passer en cette année 75, une réinvention qui surprendra et déconcertera aussi parfois ses admirateurs. Enfin, il avait l'habitude.
With a cane that he twirled on his diamond ring finger, and a Baltimore hotel society gathered, and the cops were called in, and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked William Sansinger for first degree murder. Yes, and you who classifies disgrace and criticize all fear. William Sansinger, who at just 24 years owns a tobacco farm of 600 acres, with rich wealthy parents who provide and protect it, and high office relations in the politics of Maryland, reacted to his deed with the shrug of his shoulders and swearing and sneering, and his tongue it was snarling. In a matter of a minute, on bail was out walking. I said, you who philosophize disgrace and criticize warfare, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. A maid of the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children. She cleaned up the dishes, hauled out the garbage, never sat once at the head of the table. She just cleaned up all the food from the table and emptied the ashtrays on a hole at the level. Got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room. Doomed and determined to destroy all the gentle, and she never done nothing to William Sansinger. Yes, and you who philosophize disgrace and criticize all fear, take the rag away from your face. Now ain't the time for tears.
judge pounded his gavel to show that all's equal and that the court's all on the level. That the strings in the books ain't pulled and persuaded, and that even the nobles get properly handled. Once that the cops have chased after and caught up, that the ladder of law has no top and no bottom. Stared at the person who killed for no reason, who chose to heaven to be feeling that way without warning. And he spoke through his cloak, so deep and distinguished, headed out strongly for Bentley and revenge. William Sanzinger with a 6-month sentence. Listen, you who philosophize disgrace and criticize old beer.
Connaissez à fond Bob Dylan, et je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous, vous savez sûrement que figure dans un album qu'il a publié à ses débuts, le troisième pour être précis, The Times They Are Changing, début 64, une chanson qui s'appelle The Lonesome Death of Hattie Carroll, la mort solitaire de Hattie Carroll. Une chanson qui est une expression très pure de la première manière de Dylan, le troubadour ouvrier en épaisse chemise de toile, armé de sa seule guitare sèche et de son porte-harmonica, dénonçant les méfaits des puissants et prenant le parti des faibles et des opprimés. En l'occurrence, l'horrible histoire véridique du jeune membre d'une famille de propriétaires d'une plantation de tabac dans le Maryland, William Zanzinger. C'est une histoire vraie, un soir d'ivresse en 63, celui-ci a frappé de sa canne Hattie Carroll, une serveuse noire dans un hôtel, laquelle ne lui apportait pas assez vite son verre de whisky. Il a ainsi entraîné sa mort des suites d'une hémorragie cérébrale et cet homme ne fut condamné par un tribunal que à 6 mois de prison. 11 ans après, fin 75, sur la scène du Forum de Montréal au Québec, The Ballad of Hattie Carroll est hurlée par Dylan avec rage et la chanson est méconnaissable. D'ailleurs, Dylan lui-même est méconnaissable. On peut même dire qu'il est un autre. Coiffé d'un chapeau d'Indien d'Amérique, parfois décoré d'une plume de paon, le visage maquillé de blanc, comme le mime Marceau, ou plutôt le personnage du mime Debureau, interprété par Jean-Louis Barrault dans le film Les Enfants du Paradis, les yeux soulignés par un trait de Cole, Dylan est accompagné par un groupe à la composition variable. Il faudrait dire une troupe. Il y a parfois 18 personnes sur scène, dont au moins 4 guitaristes électriques, parmi lesquels l'anglais Mick Ronson, flamboyant accompagnateur de David Bowie. À la surprise générale, Dylan s'est lancé dans un projet absolument extravagant à 1000 lieues de la brève et classique tournée des stades qu'il avait accomplie avec son groupe The Band à l'hiver 74. C'est la Rolling Thunder Review, la revue du tonnerre grondant. Il y est en effet venu à Dylan en 75 l'idée baroque de réunir une sorte de caravane. Il a décidé d'assembler autour de lui une vaste troupe de musiciens, pas seulement des musiciens d'ailleurs, il y a aussi le poète Allen Ginsberg et le comédien et auteur de théâtre Sam Shepard et plein de gens qui viennent s'agréger au fil des dates. Cette bande de troubadours se produit dans de petites villes des États du nord-est des États-Unis, enfin principalement la région de la Nouvelle-Angleterre, des villes d'ailleurs souvent de moins de 100 000 habitants, où les jeunes locaux n'auraient jamais imaginé que Bob Dylan vienne un jour chanter chez eux. Des bénévoles distribuent des tracts, oui, on disait pas encore flyer à l'époque, alertant des passants surpris que oui, Bob Dylan va bien se produire dans 3 jours, une semaine, 10 jours, à l'auditorium municipal. Certains ont du mal à y croire. C'est ce qu'on voit dans un documentaire tout à fait exceptionnel qui a été assemblé par nul autre que Martin Scorsese et que les abonnés à la chaîne Netflix pourront découvrir dès après-demain, soit le mercredi 12 juin. Alors je vais bien sûr vous en dire 2 mots, un peu plus même tout à l'heure, mais après cette version revue et corrigée de The Lonesome Death of Hattie Carroll, je tiens absolument à vous faire découvrir tout de suite une autre chanson que Dylan et sa Rolling Thunder Review ont interprété le même soir de décembre 1975 au Forum de Montréal. Le nouvel album de Bob Dylan, Desire, où elle allait figurer, n'était alors pas encore sorti. La chanson en question s'appelle Isis, hein, comme Isis. C'est une évocation hallucinée dans une sorte d'ambiance de western de science-fiction, d'une quête dans le blizzard, de mystérieuses richesses en compagnie d'un inconnu, dans un paysage de glace, à l'ombre d'un amour mystique pour une femme fatale, sans doute une déesse d'un autre monde, échouée sur cette terre. La version que vous allez entendre, inédite, est largement, mais vraiment largement supérieure à celle de l'album. Dylan semble en transe, il est traversé par une énergie presque punk avant la lettre, on a parfois l'impression d'entendre Joe Strummer avec The Clash. Bob Dylan, en décembre 75, sur la scène du Forum de Montréal avec la Rolling Thunder Review, ce soir, c'est sur France Inter.
Day of May, but I could not hold on to her very long. So I cut off my hair and I rode straight away by the wild unknown country where I could not go wrong. I came to a high place of darkness and light, the dividing line railed through the center of town. I hitched up my pony to a post on the right, went into a laundry to wash my clothes down. A man in the corner, he poached me for a match. I knew right away he was not ordinary. He said, are you looking for something easy to catch? I said, I got no money, man. He said, that ain't necessary. The cold in the north. I gave him my blanket and he gave me his word. I said, where we going? He said, we be back by the fourth. I said, that's the best news that I've ever heard. I was thinking about turquoise, I was thinking about gold, thinking about diamonds and the world's biggest necklace. As we rode through the canyons, through the devilish cold, I was thinking about Isis. I should thought I was so reckless. She told me only one day we would meet up again. Things would be different the next time we went. I only could hang on and just be her friend. I still can't remember all the best things she said. I'm not trying to find. If I carry it out, it'll bring a good price. 'Twas then that I knew what he had on his mind. Well, the wind, it was howling, and the snow was outrageous. We chopped through the night, and we chopped through the dawn. When he died, I was hoping that it wasn't contagious. But I made up my mind that I had to get out. But the casket was empty. There was no jewels, no nothing. I thought I'd been had. When I saw that my partner, he was just being friendly. When I picked up his offer, Lord, must have been mad. I picked up his body and I dragged him inside. Threw him down in the hole. I put back the cover. I said a quick prayer just to feel satisfied. Then I went back to find Isis just to tell her I love her. Rise, blinded by sleep and in need of a bed. I came in from the east with the sun in my eyes. I cursed her one time, then I rolled on her head. She said, where you been? I said, no place special. She said, you look different. I said, well, I guess. She said, you've been gone. I said, that's only natural. She said, you're gonna stay. I said, if you want me to. Yeah!
Isis, une interprétation, vous l'avez entendu, enflammée de Bob Dylan à la fin de l'année 75, traversée pour ainsi dire par une énergie punk, dans le cadre de cette Rolling Thunder Review qu'il avait entreprise à l'automne de cette année-là. Punk, Dylan, c'est exagéré bien sûr, mais pour autant, quand on remet les choses dans leur contexte, il y avait un peu de ça. En hiver 74, je vous racontais tout à l'heure, Dylan et les musiciens de The Band s'étaient embarqués dans une tournée des stades. Dylan avait détesté ça. On s'engouffre dans un avion qui vous recrache à 2000 km de là, on débarque dans un aéroport au milieu de nulle part, on monte dans un autocar, bon dans son cas plutôt une limousine, on débarque dans un stade qui ressemble à tous les autres stades, on sait même pas dans quelle ville on se trouve, on fait des balances, on mange un truc qui a aucun goût, on chante, perdu dans une immensité anonyme, et on repart et c'est reparti. Voilà. Alors Dylan n'y avait pris absolument aucun plaisir. Il a découvert en 74 ce qu'étaient devenus les gros concerts de rock, ce que vivaient les Led Zeppelin, les Stones, Pink Floyd et compagnie, et leur public, de grosses machines sans âme, où les musiciens étaient présentés comme des demi-dieux intouchables, enfermés dans leur bulle à des kilomètres de leur public. Si les punks se sont révoltés, c'est en grande partie contre ces spectacles creux. Les groupes punk, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils chantaient, ils jouaient dans de petites salles où le public pouvait les toucher, leur parler, leur cracher dessus. Bon, c'était une autre affaire. Mais enfin, il y avait au moins une authenticité dans le contact. Et c'était au fond l'expérience que Dylan avait connue à ses débuts, 15 ans auparavant, lors de ses débuts, voilà, dans ce qu'on appelle les coffee houses de Greenwich Village à New York. C'est cette ambiance-là qu'en fait il voulait retrouver, jouer au milieu des gens. Et puis aussi sentir les paysages traversés, l'ambiance des villes. On voit d'ailleurs dans le documentaire Dylan conduire lui-même son propre van qui le mène, lui et sa troupe, de ville en ville. C'est ce qu'on découvre dans ce documentaire captivant de bout en bout qu'a assemblé Martin Scorsese à partir d'images tournées pendant cette Rolling Thunder Review par un documentariste accrédité. Un certain Van Dorp, lié, d'après ce que j'ai compris, à l'avant-garde et au pop art des années 60. Alors, tout n'est pas clairement expliqué parce que, voilà, Martin Scorsese n'a pas pris le temps vraiment de développer les tenants et aboutissants de cette affaire. Mais enfin, en gros, d'après ce que j'ai compris, ce Van Dorp, qui est un type qui avait une très mauvaise réputation auprès des membres de la tournée, un type qui n'avait pas l'air très commode, s'était mis beaucoup de monde à dos. Et finalement, il n'était pas parvenu à tourner un documentaire à partir de ces images. Bref, une quarantaine d'années plus tard, si j'ai bien compris, ce Van Dorp est allé trouver Scorsese en lui disant qu'il avait dans ses archives plein d'images inédites qu'il n'avait jamais pu monter. Il s'est sans doute dit que comme Scorsese avait déjà obtenu l'accord de Dylan pour réaliser un documentaire sur son parcours, je veux parler du film No Direction Home, c'était en 2005, eh bien celui-ci, Scorsese donc, pourrait sûrement faire quelque chose. Eh bien, Van Dorp ne s'est pas trompé, Scorsese a fait quelque chose. Il a joint d'autres images d'archives de la période, il y a un récit. Il a également recueilli des témoignages inédits, dont celui de Dylan aujourd'hui, qui est assez rigolo parce que Dylan dit « je me souviens absolument de rien ». Et il a réalisé un montage magistral. L'intitulé exact est « Rolling Thunder Review 2. et Bob Dylan's Story by Martin Scorsese ». C'est un film que, je vous le rappelle, les abonnés à la chaîne Netflix auront le privilège de découvrir dès après-demain, mercredi 12 juin. Alors c'est dommage, entre parenthèses, de ne pas pouvoir le voir au cinéma, ce grand écran, mais bon, apparemment, on n'a pas le choix. Un documentaire assemblé, donc, avait pour mission... Je vous parlais des étonnantes réinterprétations faites durant cette tournée par Dylan de certains de ses classiques. Eh bien, voici un exemple entre country rock californien et funk sautillant, c'est assez surprenant. It Ain't Me Babe, c'est un classique de 64, et là encore, c'est peut-être une obsession de ma part, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à certaines chansons de l'album London Calling de The Clash, paru d'ailleurs 4 ans après cette série de concerts.
One you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone. Never weak, but always strong. To protect you and defend you. Whether you are right or wrong. Someone to open each and every door. Step lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part. Someone who closes his eyes for you. Someone to close his heart. Someone who will die for you. And more. But it ain't me, babe. No, 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 no. It ain't me, babe. It ain't me. You're looking for a babe.
Trip sur France Inter.
They sat together in the park as the evening sky got dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone. Wished he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate.
walked along by the old canal. A little confused, I remember well. Then stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. A saxophone someplace softly played as she was walking on by the arcade. She heard the melody rise and fade. The sun was coming up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. He woke up, she was gone. He didn't see nothing but the dawn. He got out of bed and put his clothes back on. Pushed back the blinds. Found a note she'd left behind, to which he just could not relate. All about a simple twist of fate. Hears the ticking of the clocks and walks alone through the city blocks. Hunts her down by the waterfront docks where the sailors are rolling. Maybe he'll spot her once again. How long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me it's a crime to know too much for too long a time. She should have caught me in my prime. She would have stayed with me instead of going off to sea and leaving me to meditate upon that simple twist of fate.
Simple Twist of Fate, Bob Dylan, seul à l'harmonica et à la guitare sèche, comme lors de ses débuts à New York en 61, mais c'était 14 ans plus tard, en novembre 1975, devant le public d'un petit théâtre de Cambridge, hein, la ville universitaire qui est collée à Boston, dans le Massachusetts. Une de ses plus belles chansons, pareil à un tableau, à un film, un homme qui rencontre une femme mystérieuse dans un parc, à la tombée de la nuit, une ville portuaire, une aventure éphémère, une chambre d'hôtel vide, un simple caprice du destin, elle était née au printemps et moi, j'étais né trop tard. Cette chanson, Simple Twist of Fate, Bob Dylan l'avait enregistrée pour son album sorti tout récemment, fin 74, début 75, Blood on the Tracks. C'était étonnant, à moins d'un an de distance, la voix est extrêmement différente. Dans la version en studio, la voix semble venir de plus loin, comme si cette histoire s'était passée depuis longtemps, il y a longtemps, comme contemplée à distance par un vieil homme. Tandis qu'un an plus tard, devant le public réuni dans cette petite salle de Cambridge, eh bien c'est un jeune homme qui semble revivre une aventure brûlante, la chair à vif. Alors si vous regardez le film que Scorsese a assemblé d'après ses documents d'époque, il y a une chose qui vous frappera. Dylan, le visage de Dylan filmé en gros plan, en train de chanter, c'est vrai, c'est assez rare, des images étonnantes. Il porte, je vous en ai parlé, un maquillage blanc, sur le visage, assez moche, qui dégouline. Il a ce chapeau d'Indien ou de gaucho argentin avec une plume et il semble en proie à une espèce de transe. Il a le regard complètement vide et il y a une espèce d'intensité dans sa diction, dans sa présence, qui ressemble vraiment... Enfin, il n'y a personne qui soit comme lui sur scène. Et d'ailleurs, c'est Joan Baez qui le dit, interviewé par Scorsese récemment. Il n'y a pas d'interprète plus magnétique que Bob Dylan sur une scène. Joan Baez, d'ailleurs, qui s'est greffé à cette Rolling Thunder Review, comme tant d'autres. Outre ses duos avec Dylan, c'est assez bizarre, inattendu. On la voit partir à un moment sur scène dans une étonnante danse de contorsionniste. Et même à un moment, elle se déguise en Dylan avec le chapeau. Elle se met le même maquillage. Elle imite sa voix grave, ses gestes. Alors, d'ailleurs, elle raconte avec sa franchise habituelle qu'elle était la seule, pendant cette tournée, à garder la tête à peu près claire, à ne pas prendre de drogue. Enfin, bon, ce qui ne l'empêchait pas de déconner un peu. Enfin, ça voulait s'imaginer ce que les autres pouvaient faire. Alors, faut pas oublier que pendant cette tournée, l'auteur de théâtre et comédien Sam Shepard était présent et que Bob Dylan l'avait chargé de coécrire et d'interpréter avec lui des scènes pour un film qui semblait en tout cas improvisé au fur et à mesure. Un film dont étrangement le documentaire de Scorsese ne parle pas et qui s'appelle Rinaldo and Clara. Assemblé, réalisé et distribué par Bob Dylan lui-même, hein, il durait initialement 4 heures avant d'être réduit à 2. Alors à sa sortie début 78, le film s'est fait étrier par les critiques, on l'a considéré comme une folie de Dylan, mais enfin, il y a des éléments de ce film qui apparaissent dans le documentaire de Scorsese, et il apparaît clairement que le jeu de rôle qu'il a mis en scène dans Rinaldo and Clara, où il se montre masqué, avec Sam Shepard qui joue le rôle de Bob Dylan, et avec Joan Baez et Sarah Lowndes, la femme de Dylan, dont il allait d'ailleurs bientôt divorcer, qui échangent le rôle, et bien tout ça est né dans la fièvre et l'improvisation créative de la tournée Rolling Thunder Review. Et comme le dit à un moment Bob Dylan dans le documentaire, quand un homme revêt un masque, vous pouvez être sûr qu'il va vous dire la vérité. Mais au fond, c'est ce qu'il avait toujours fait.
Man, blue-eyed son, who did you meet? My darling, you're the one. love you do now, my darling young wife. I'm going back out when the rain starts to follow. Walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and our hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley is still an empty prison, where the executioner's face is always well hidden, where the hunger is early, where souls are forgotten, where black is the color, none is the number. And I'll tell it and think it and speak it and breathe it, reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my soul well before I start singing. And it's a heart, and it's a heart.
Une version incandescente d'un classique de la période engagée de Bob Dylan, The Hard Rain's Gonna Fall, enregistré lors du concert de Montréal en décembre 1975 de la Rolling Thunder Review, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors il y a une chose tout à fait surprenante que j'ai apprise en regardant le documentaire que Martin Scorsese a consacré à cette tournée pas comme les autres de Bob Dylan, entreprise à l'automne 75 et qui s'est étendue sur une bonne partie de l'année suivante. Il se trouve que quelques mois auparavant, au printemps 75, Bob Dylan avait passé des vacances dans le midi de la France, du côté d'Arles. Il avait même fait, paraît-il, un tour en Corse. Alors je sais pas, il y a peut-être des gens qui m'écoutent, qui sont assez âgés, sans être vexant, voilà, qui s'en souviennent. Donc voilà, qui se manifestent s'ils savent quelque chose. En tout cas, on apprend que quand il était du côté d'Arles, eh bien, Dylan avait assisté, on l'apprend donc dans le film, au pèlerinage des Saintes Maries de la Mer, où tous les 24 mai, des manouches, roms et diverses ziganes venues d'Europe viennent célébrer leur sainte patronne, la Vierge Noire. Et il avait écouter à cette occasion le grand guitariste Manitas de Plata jouer tard dans la nuit. Celui-ci venait là tous les ans. Scorsese évoque d'ailleurs cet événement en utilisant des images du très beau film de Tony Gatliff, L'Achodrome. Dylan aurait, cette nuit-là, était-ce une autre, peu de temps après, fait un rêve. Un matin, une chanson très différente de tout ce qu'il avait pu écrire et chanter auparavant lui est comme apparue. Elle est pour ainsi dire venue toute seule. One more cup of coffee, une dernière tasse de café avant que je parte dans la vallée, et une ode à une femme merveilleuse dont on se demande si elle est vision ou réalité.
He's an outlaw, and I wonder about trade. He'll teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does it true. His voice it trembles as he's calling out for another plate of food. One more cup of coffee, far below. One more cup of coffee before I go to the valley below. Your sister sees the future like your mama and yourself. You've never learned. Read or write, there's no books upon your shelf. And your pleasure knows no limits. Your voice is like a meadowlark, but your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee far to go. One more cup of coffee before I go. The valley
Sarah, c'est si facile de te regarder, si dur de te définir. Une des chansons les plus directes de Bob Dylan. Il l'a enregistrée pour l'album Desire, sorti début 76. Et quelques semaines avant, ben vous l'entendez, il l'a chantée sur la scène du Music Hall de Boston. Un témoignage de gratitude envers Sarah, la mère de ses enfants, dont il allait divorcer 2 ans plus tard. Tu m'as toujours répondu quand j'avais besoin de ton aide. Tu m'as montré le chemin et la clé de ta porte. Mais peut-être est-ce ce vers qui est le plus vrai, le plus déchirant aussi. Sarah, Sarah, il faut que tu me pardonnes mon indignité. Voilà, demain, on retrouvera Bob Dylan et la Rolling Thunder Review. Je me dépêche, on rendra très prochainement hommage à Dr. John, un des plus grands musiciens de la Nouvelle-Orléans, une ville qui nous en a donné beaucoup et qui vient de nous quitter. Il avait un lien avec Dylan, qui avait un jour sorti devant lui une de ses formules drôles et laconiques. I'm on the right trip, but in the wrong car, je fais le bon voyage, mais dans la mauvaise voiture, ça avait inspiré Dr. John, qui en avait tiré une chanson devenue célèbre, Right Place, Wrong Time. Voilà, merci Stéphane Ronxin, merci Michel Bézikian, et pardon pour le retard.